Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Supplément, livre sur Venise. Chapitre 10. Venise du 10 au 17 septembre 1833. Beau génie inspiré par Venise, ancienne et nouvelle courtisane, Rousseau et Byron nés malheureux. Point de suspension. Lord Byron comptait vraisemblablement la Fornarina parmi les femmes dont la beauté ressemblait à celle du tigre soupant. Qu'est-ce donc si lui et Rousseau avaient vu les anciennes courtisanes de Venise et non leur race dégénérée? Montaigne, qui ne cache jamais rien, raconte que cela lui sembla autant admirable que nulle autre chose, d'en voir un tel nombre, comme 250 ou environ, faisant une dépense en meubles et vêtements de princesse, n'ayant d'autres fonds à se maintenir que cette trafique. Quand les Français s'emparèrent de Venise, ils défendirent aux courtisanes de placer à leurs fenêtres le petit phare des héros qui servait à guider les Léandres. Les Autrichiens ont supprimé, comme corporation, les Benemerite Meretrici du Sénat vénitien. Aujourd'hui, elles ne ressemblent plus qu'aux créatures vagabondes des rues de nos villes. À quelques pas de mon auberge est une maison à la porte de laquelle se balancent, pour enseigne, trois ou quatre malheureuses assez belles et demi-nues. Un caporal Schlagen, collé le long de la muraille, les bras allongés, la paume des deux mains appliquée au fémur, la poitrine effacée, le cou raide, la tête fixe, ne la tournant ni à droite ni à gauche, est en faction devant ces demoiselles qui se moquent de lui et cherchent à lui faire violer sa consigne. Il voit entrer et sortir les pourchois, avertissant par sa présence que tout se doit passer sans scandale et sans bruit. On ne s'est pas encore avisé en France de mettre l'obéissance de nos conscrits à cette épreuve. Plaignons Rousseau et Byron d'avoir encensé des autels peu dignes de leur sacrifice. Peut-être avares d'un temps dont chaque minute appartenait au monde, n'ont-ils voulu que le plaisir, chargeant leur talent de le transformer en passion et en gloire. À leur lire, la mélancolie, la jalousie, les douleurs de l'amour. À eux, sa volupté et son sommeil sous des mains légères. Ils cherchaient de la rêverie, du malheur, des larmes, du désespoir dans la solitude, les vents, les ténèbres, les tempêtes, les forêts, les mers, et venaient en composer pour leurs lecteurs les tourments de Childarold et de Saint-Preux sur le sein de Zulietta et Marguerite. Quoi qu'il en soit, dans le moment de leur ivresse, l'illusion de l'amour était complète pour eux. Du reste, ils savaient bien qu'ils tenaient l'infidélité même dans leurs bras, qu'elle allait s'envoler avec l'aurore. Elle ne les trompait pas par un faux semblant de constance. Elle ne se condamnait pas à les suivre, lassée de leur tendresse ou de la sienne. Somme toute, Jean-Jacques et Lord Byron ont été des hommes infortunés. C'était la condition de leur génie. Le premier s'est empoisonné, le second, fatigué de ses excès, et sentant le besoin d'estime, est retourné aux rives de cette Grèce, où sa muse et la mort l'ont tour à tour bien servi. Glory and Greece around us see, the land of honorable death is here, up to the field and give away the breeze. Voyez la gloire et la Grèce autour de nous, la place d'une honorable mort est ici, au champ et abandonne ta vie. Chapitre 11. Venise du 10 au 17 septembre 1833. Zanze. Comme je prenais au crayon les notes de tout ceci, en déjeunant longuement à ma petite table, un sbire rôdait autour de moi. Il me connaissait sans doute et n'osait rien me dire. Détesté des rois dont j'ai l'honneur d'être le très humble mais très peu obéissant serviteur, je leur représente la liberté de la presse incarnée. Hyacinthe me vint rejoindre au café et m'apprendre le succès des recherches relatives à Zanze. Le père de celle-ci, Brollo, le geôlier, était mort depuis quelques années. La mère de Zanze logeait derrière l'Académie des Beaux-Arts, au palais Sicognara, qu'elle louait du propriétaire, et dans lequel elle soulouait des chambres à des artistes, des commis et des officiers de la garnison. La veuve de Brollo avait deux fils. L'un, Angelo, travaillait chez un fabricant de mosaïques. L'autre, Antonio, tenait le comptoir d'un marchand de fromage. Zanz était mariée. Elle demeurait chez sa mère avec son mari, employé à la centrale. Elle s'occupait de mosaïques et de broderies. Les choses arrivées à ce point, je me résolus de faire une visite à Madame Brollo. J'allai prendre Antonio à l'auberge et nous partîmes en gondole. La geôlière me vint recevoir à sa porte sur la calier. Nous montâmes un escalier, Madame Brollo marchait devant comme si elle m'eût conduite en prison, me demandant pardon de m'introduire d'abord dans une cuisine. Zanz était à l'académie avec un élève et elle avait emporté la clé de sa chambre. Mais Madame Brollo, avisant une double clé pendue à un clou, s'empressa de m'ouvrir l'appartement de sa fille. La chambre était grande, éclairée par deux fenêtres. Un large lit de 6 pieds sans rideaux, une table et quelques chaises complétaient l'ameublement. L'auguste veuve détacha du mur un portrait de François II, en petites perles de verre, ouvrage de la Zanz. Je me présentai comme un amateur de mosaïque. Antonio fut dépêché en courrier à la brodeuse du portrait. Restés seuls avec Madame Antonia Brollo, nous commençâmes une conversation fort animée. Madame Antonia a été mariée 2 fois. Son premier mari, Jean Olagnon, était un Picard, mort à l'armée d'Égypte. Madame Antonia sait le français et le prononce même assez bien, mais elle a de la peine à trouver les mots. Elle se servait donc presque toujours de la langue italienne, mêlée de patois vénitien.
Voici le portrait de la Carceriere
par Pellico. La mogli era quella che più manteneva il contegno ed il carattere
di Carceriere.
Era una donna diviso asciuto verso i 40 anni, di parole asciute, non dante il minimo segno d'essere capace di qualche benevolenza ad altre che i suoi figli. La femme était celle qui maintenait plus la contenance et le caractère du geôlier. C'était une femme de visage sec ou aigre, d'environ 40 années, de paroles sèches, ne donnant pas le moindre signe d'être capable de quelque bénévolence à autre qu'à ses enfants. Madame Antonia a dû changer depuis 10 ans. Voici son nouveau signalement. Petite femme d'un air fort commun, figure ronde, teint coloré, n'ayant rien sur la tête que ses cheveux grisonnants, paraissant fort avide et fort occupée des moyens de faire vivre sa famille. Quand nous avons été assis l'un près de l'autre, elle s'est emparée de ma main qu'elle a serrée et qu'elle a voulu baiser. J'ai retiré ma main par modestie et j'ai dit « Madame Antonia, vous avez connu Monsieur Silvio Pellico ?»« Signor, si, un carbonaro, tutti carbonari. » Vous lui portiez son café dans la journée, et souvent votre fille vous remplaçait. Vero.
La sua eccellenza.
Avez-vous 2 filles? Non, monsieur, 1 seule. Et qui s'appelle Zanz? Signor, si, et 2 garçons. C'est ça même, et votre fille servait très bien, monsieur Silvio Pellico. Signor, si, tutti dottori, canonici nobili. Quand ils furent condamnés, oh Dio! Je présentai un cierge, gros comme ça, à Nostra Dama di Pietà. Ici, Madame Antonia me raconta qu'après le jugement, on l'avait mise, elle, son mari et toute sa famille, Nelia Strada, avec 20 sous dans sa poche, qu'elle réclama, demanda une pension, menaça d'écrire à l'empereur, et qu'enfin elle obtint 100 écus, à l'aide desquels elle a élevé ses enfants. Antonio est arrivé avec Zanz. J'ai vu apparaître une femme plus petite encore que sa mère, enceinte de 7 ou 8 mois, cheveux noirs, nattés, chaîne d'or au cou, épaules nues et très belles, yeux longs de couleur grise et dits pietozzi sguardi, nez fin, physionomie fine, visage effilé, sourire élégant, mais les dents moins perlées que celles des autres femmes de Venise, le teint pâle plutôt que blanc, la peau sans transparence, mais aussi sans rousseur. Antonio est devenu le truchement de la conversation générale. J'ai dit à Zanz qu'admirateur de M. Pellico, j'avais voulu voir une femme qui fût si bonne pour un pauvre prisonnier. Zanz m'avait saisi la main comme sa mère, et je ne sais pourquoi je n'ai pas retiré ma main. Zanz paraissait chercher dans sa mémoire le nom que je venais de prononcer. Puis, « Oui, oui, monsieur Pellicot, je m'en souviens, un Carbonaro. » « Savez-vous qu'il a écrit un ouvrage sur ces prisons et qu'il y parle de vous ?»« Non, je ne sais pas. » Le vieil Antonio, qui savait tout, prenant moins de précautions et avec un sourire très drôle, a dit « Mais Hans, vous lui avez conté que vous étiez en amour. »« Signora Zanze, comment, innamorata, invagita, et j'allais à l'école, j'étais une toute petite fille, je n'avais pas 12 ans. » Antonio. Corpo di Cristo, à 12 ans, on est très bien en amour à Venise. Signora Antonia. Tu avais 14 ans, Zanz. Tu étais en amour, c'est vrai. Signora Zanz. Ça n'est pas vrai. Je n'ai été en amour qu'après avoir été envoyée à la campagne, parce que j'étais malade. J'ai été en amour alors, avec mon cousin. Et vous avez épousé votre cousin, ai-je dit.
No, eccellenza.
Je n'ai pas épousé mon cousin. J'ai ri. Madame Antonia a raconté que Broglio, ayant appris la condamnation probable des prisonniers, avait fait partir ses enfants pour la campagne. J'ai repris. Il y avait peut-être dans la prison une autre Zanz. Vous n'êtes peut-être pas la Zanz qui portait le café à monsieur Silvio Pellicot. Oui, oui, il y avait dans la prison d'autres Zanz que moi. La fille du Segandino s'appelait... J'oublie le nom, c'était déjà une vieille fille. Zanz, reprenant ma main dans les deux siennes, s'est mise à me détailler l'histoire de ses études de mosaïque. Elle s'embellissait à mesure qu'elle parlait. Pellicot a très bien peint le charme de ce qu'il appelle la laideur de la petite geôlière, Brotina, Graziose, Adulazioncele, Venezianina Adolescente Sbira. Zanz, au compte même de sa mère, a 24 ans. Elle en avait 14 lorsqu'elle confiait les peines de cet âge à l'auteur de Françoise de Rimini. Elle n'avait pas alors eu 3 enfants et n'était pas enceinte d'un 4e. Zanz m'a dit que 2 de ses enfants étaient morts et qu'elle n'en avait plus qu'un. « Et où est donc le 4e ? » ai-je dit. Zanz a ri et regardant sa grosse ceinture, elle a dit « Stimo costui ». Antonio m'adressant la parole en français, elle ne conviendra pas de ses aveux à Pellicot. Mais c'est bien sûr. Je ne cherche point, ai-je répondu, le secret de Zanz. Et si vous ne lui aviez pas parlé de ses amours, je ne lui en aurais pas dit un mot. Demandez maintenant à Zanz si elle veut que je lui envoie le millet Prigioni. Elle les lira et me dira si elle se rappelle des circonstances qu'elle peut avoir oubliées. Zanz a accepté la proposition, mais elle a recommandé de n'apporter le livre qu'après l'heure où son mari se rend à son bureau. « Mon mari, a-t-elle ajouté, est plus jeune que moi d'un an. » Voilà où nous en sommes. Je dois revenir acheter quelques petits ouvrages de Zanz. Elle m'a reconduit avec sa mère jusqu'à la porte de la calier. La vieille ne perdait pas de vue son affaire et m'invitait fort à ritornare. Zanz était plus réservé. Telle est la puissance du talent. Pellicot a prêté à sa consolatrice Brutina, qui chassait si bien les mouches avec son éventail, un charme qu'elle n'a peut-être pas. La Signora Zanz est un ange d'amour quand, après avoir baisé un verset de la Bible, elle dit au prisonnier « Toutes les fois que vous relirez ce passage, je voudrais que vous vous souvinssiez que j'y ai imprimé un baiser. » Elle est d'une séduction irrésistible lorsque Pellicot, s'enchaînant de ses chers bras, d'allier sue care braccia, sans la serrer contre lui, sans lui donner un baiser, lui dit, balbutiant, « Vi prego, Zanze, non m'abbracciate mai, cio non va bene. » Chapitre 12, Venise, du 10 au 17 septembre 1833. Madama Mocenigo,
le comte Chico Gnara,
buste de Madame Récamier. J'avais rencontré de fortune à Paris, sous l'Empire, Madame Mocenigo, dont les ancêtres furent 7 fois honorés du dogat. Bonaparte, pour régénérer l'Italie, forçait les grandes familles transalpines à lui livrer leurs enfants. Madame Mocenigo, enveloppée dans la mesure commune, préparait ses 2 petits doges sur la montagne Sainte-Geneviève au service du soldat impérialisé. Le temps n'était plus où Venise contraignait un empereur à s'humilier devant elle pour obtenir la liberté d'un fils. Madame Mocenigo, ayant appris mon passage dans sa ville natale, eut l'obligeance de désirer me revoir. Je me rendis chez la grande dame en sortant de mon rendez-vous avec la petite Soria. Le moderne poète d'Albion a consacré par sa présence l'un des trois palais Mocenigo. Un poteau planté dans le grand canal indique aux passants l'ancienne demeure de Byron. On est moins touché de découvrir sur ce poteau les armoiries demi-effacées du noble lord qu'on ne serait attendri d'y voir suspendue sa lyre brisée. Madame Mocenigo vit retranchée dans un tout petit coin de son Louvre dont la vastitude la submerge et dont le désert gagne chaque jour sur la partie habitée. Je l'ai trouvée assise en face du tableau original de la gloire du paradis de Tintoret. Son portrait, le portrait de Madame Mocenigo, peint dans sa jeunesse, titre primordial et authentique de sa beauté, était attaché au mur devant elle. Quelquefois, une vue de Venise,
dans son premier éclat,
par Canaletto, fait pendant d'une vue de Venise, défaillante, par Bonington. Toutefois, Madame Mocenigo est encore belle, mais comme on l'est, à l'ombre des années. Je l'ai accablée de compliments qu'elle m'a rendus. Nous nous mentions, tous deux, et nous le savions bien. Madame, vous êtes plus jeune que jamais. Monsieur, vous ne vieillissez point. Nous nous sommes pris à nous lamenter sur les ruines de Venise pour éviter de parler des nôtres. Nous mettions au compte de la République toutes les plaintes que nous faisions du temps, tous nos regrets des jours écoulés. J'ai baisé respectueusement en me retirant la main de la fille des doges, mais je regardais de côté cette autre belle main du portrait qui semblait se dessécher sous mes lèvres. Quand la jeune main de la plébéienne Zanze avait pressé la mienne, je ne m'étais aperçu d'aucune transformation. M. Gamba, mon savant patron, m'attendait chez le comte Cicognara. Le comte est un homme de grande taille et de belle mine, mais réduit par la phtisie à un état de maigreur effrayant. Il s'est levé avec peine de son fauteuil pour me recevoir et m'a dit « Je vous aurai donc vu avant de mourir. » « Monsieur, lui ai-je répondu, vous me prévenez. J'allais précisément vous dire ce que vous venez de me dire. Il est probable que je m'en irai le premier. Je suis heureux de contempler l'homme qui a rendu la vie à Venise, autant qu'on peut ranimer des cendres illustres. » Madame Cicognara était là et voulait empêcher son mari de parler. Les efforts de sa tendresse ont été inutiles. Pour la première fois depuis que j'étais au-delà des Alpes, j'ai causé de politique. Nous avons gémi sur l'Italie. La conversation est ensuite tombée sur les arts. J'ai félicité M. Cicognara de la découverte de l'Assomption du Titien. Le curé qui avait abandonné ce tableau sans en connaître le mérite a voulu depuis intenter un procès à l'ingénieux amateur. L'affaire s'est arrangée. Je savais l'admiration exclusive de M. Cicognara pour Canova. J'ai cru devoir lui citer l'urne qui renferme à l'Académie la main du statuaire, bien que cette charcuterie, ce dépècement d'un corps humain, cette adoration matérielle de la griffe d'un squelette, me soit abominable. On trouve le buste de Canova dans les auberges et jusque dans les chaumières des paysans de la Lombardie vénitienne. Nous sommes loin de ce goût des arts, de cet orgueil national. Si nous possédons quelques talents, nous nous empressons de les déprécier. Il semble qu'on nous vole ce qu'on admire. Nous ne pouvons souffrir aucune réputation. Nos vanités prennent ombrage de tout. Chacun se réjouit intérieurement quand un homme de mérite vient à mourir. C'est un rival de moins. Son bruit importun empêchait d'entendre celui des sots et le concert croissant des médiocrités. On se hâte d'empaqueter l'illustre défunt dans 3 ou 4 articles de journal. Puis on cesse d'en parler. On n'ouvre plus ses ouvrages. On plombe sa renommée dans ses livres, comme on scelle son cadavre dans son cercueil, expédiant le tout à l'éternité par l'entremise de la mort et du temps. J'indiquerai à mes survivants mon article nécrologique fait d'avance, comme je me souviens de l'avoir lu dans le journal de Pierre de l'Étoile. Ce jeudi fut mis en terre le bonhomme Dufour. Il avait fait le voyage de Jérusalem et pour cela n'en était pas plus habile. J'avais vu chez Madame Albrizzi la Leda de Canova. J'ai admiré chez le comte Cicognara la Béatrix du Praxitèle de l'Italie. M. Artaud, dans sa traduction du Dante, et mon excellent ami M. Ballanche, dans ses essais de palingénésie, racontent comment le statuaire fut inspiré. Guillemets. Un artiste entouré d'une grande renommée, dit le philosophe chrétien, un statuaire qui naguère jetait tant d'éclat sur la patrie illustre du Dante, et dont les chefs-d'œuvre de l'Antiquité avaient si souvent exalté la gracieuse imagination, un jour, pour la première fois, vit une femme qui fut pour lui comme une vive apparition de Béatrix. Plein de cette émotion religieuse que donne le génie, aussitôt il demande au marbre, toujours docile sous son ciseau, d'exprimer la soudaine inspiration de ce moment. Et la Béatrix du Dante passa du vague domaine de la poésie dans le domaine réalisé des arts. Le sentiment qui réside dans cette physionomie harmonieuse, maintenant, est devenu un type nouveau de beauté pure et virginale qui, à son tour, inspire les artistes et les poètes. Fin des guillemets. Canova sculpta 3 bustes de son admirable Béatrix, faite à l'image de Madame Récamier. Celui qu'il destina à son modèle comme un portrait d'après nature, ceint une couronne d'olivier. Le grand artiste, reconnaissant à la fois envers la femme et le poète, écrivit de sa main ces vers du Dante, dans le billet d'envoi à Madame Récamier. Sovra candido velo,
uscinta d'oliva,
donam a parve. J'étais vivement ému de ces hommages du génie à celle dont la protectrice amitié survivra à ses mémoires. Si elle apparut à Canova sovra candido velo, elle m'apparut à moi, qui continue la citation, dentro una nuvola di fiori che d'allie mani angeliche saliva. Je trace à mon tour ce peu de mots sur le socle du buste, regrettant de n'avoir reçu du ciel ni le ciseau de Canova, ni la lyre du Dante. Chapitre 13. Venise, du 10 au 17 septembre 1833. Soirée chez Madame Albrizzi, Lord Byron selon Madame Albrizzi. Après le dîner, je me suis habillée pour aller passer la soirée chez Madame Teotoki Albrizzi, le spirituel auteur des Ritratti, qui a si vivement loué M. Denon, à une époque de voyageurs où mon nom était connu à peine. M. Gamba avait résolu de me présenter à la célèbre signora. J'enrageais. Sortir à 9 heures du soir, à l'heure où je me couche quand je me couche tard. Mais que ne fait-on pas pour Venise ? Madame Albrizzi était une vieille dame aimable, à visage d'imagination. Je trouvais dans son salon une multitude d'hommes, presque tous savants et professeurs. Parmi les femmes, il y avait une nouvelle mariée, assez belle, mais trop grande, une vénitienne d'une ancienne famille, figure pâle, yeux noirs, l'air un peu moqueur ou boudeur, en tout fort piquante, mais elle manquait de la plus séduisante des grâces. Elle ne souriait point. Une autre femme, à physionomie douce, m'a fait moins peur. J'ai osé causer avec elle. Elle a voyagé en Suisse. Elle est allée à Florence. Elle est honteuse de n'avoir pas vu Rome. Mais vous savez que nous autres italiennes, nous restons où nous sommes. On pourrait très bien rester avec elle. Madame Albrizzi m'a conté tout Lord Byron. Elle en est d'autant plus engouée que Lord Byron venait à ses soirées. Sa seigneurie ne parlait ni aux Anglais ni aux Français, mais il échangeait quelques mots avec les Vénitiens, et surtout avec les Vénitiennes. Jamais on n'a vu Mylord se promener sur la place Saint-Marc, tant il était malheureux de sa jambe. Madame Albrizzi prétend que quand il entrait dans son salon, il se donnait en marchant un certain tour, au moyen duquel il dissimulait sa claudication. Décidément, il était grand nageur. Il a octroyé son portrait à Madame Albrizzi. Childe Harold, dans cette miniature, est charmant, tout jeune ou tout rajeuni. Il a un caractère de naïveté et d'enfance. La nature l'avait peut-être fait ainsi. Puis un système, né de quelque disgrâce, en s'emparant de son esprit, aura produit le Byron de sa renommée. Madame Albrizzi affirme que dans l'intimité, on retrouvait en lui l'homme de ses ouvrages. Il se croyait dédaigné de sa patrie, et par cette raison il la détestait. Dans le public de Venise, il était sans considération à cause de ses désordres. Canova a donné à Madame Albrizzi, grecque de naissance, un buste d'Hélène. On me l'a montré au flambeau. Madame Albrizzi m'avait, disait-elle, vu dans l'amphithéâtre de Vérone, et prétendait m'avoir distingué au milieu des rois. De ce compliment si beau, j'ai été si abasourdi que je me suis retiré à 11 heures, au grand ébahissement des Vénitiens. Il était temps, le sommeil me gagnait, et j'étais au bout de mon esprit. Il ne faut jamais jouer sa dernière idée, ni son dernier écu. À propos d'écu, Lao est mort et enterré à Venise. J'ai envie d'aller lui demander quelques-uns de ses bons billets pour soutenir la légitimité et une concession pour moi, au Natchez. Chapitre 14. Venise du 10 au 17 septembre 1833. Soirée chez Madame Benzoni, Lord Byron selon Madame Benzoni. Si l'on savait ce que je souffre dans un salon, les âmes charitables ne me feraient jamais l'honneur de m'inviter à quoi que ce soit. Un des plus cruels supplices de mes grandeurs passées était de recevoir et de rendre des visites, d'aller à la cour, de donner des bals, des fêtes, de parler, de sourire en crevant d'ennui, d'être poli et amusé à la sueur de mon front. C'étaient là les vrais, les seuls soucis de mon ambition. Toutes les fois que je suis tombé du sommet de ma fortune, j'ai ressenti une joie inexprimable à rentrer dans ma pauvreté et ma solitude, à jeter bas mes broderies, mes plaques, mes cordons, à reprendre ma vieille redingote, à recommencer les promenades du poète par le vent et la pluie le long de la Seine vers Charenton ou Saint-Cloud. Ayant passé une soirée chez Madame Albrizzi, je ne pus éviter une autre soirée chez la comtesse Benzoni. À 10 heures, je descendis dans ma gondole comme un mort que l'on porte à Saint-Christophe. Madame Benzoni a mérité sa réputation de beauté. Ses mains ont servi de modèle à Canova. Elle est l'héroïne de la Biondina in Gondoletta. Elle m'a fait mettre à ses côtés sur un sofa. Sont arrivées successivement des femmes. Une multitude d'hommes se pressaient debout. Les personnes qui me connaissent sauront si j'étais à l'aise, exposé comme un saint sacrement au milieu des regards fixés sur mes rayons. Je n'ai rien d'une divinité et n'ai ni droit à l'adoration ni amour de l'encens. Je suppliais Madame Benzoni, malgré tout le bonheur que j'avais d'être auprès d'elle, de me permettre de rendre la place que j'occupais si mal à quelques femmes. Elle ne l'a jamais voulu. Elle est allée me quêter 2 ou 3 hommes d'esprit. Ils ont eu la bonté de venir échanger quelques paroles avec ma glorieuse captivité enchaînée sur mes coussins de soie comme un forçat sur son banc. Un grand monsieur que j'avais entrevu chez Madame Albrizzi m'a dit « Ah, vous faites le vieux, nous ne serons plus attrapés à ce que vous écrivez de vous. Monsieur, ai-je répondu, vous me traitez mal. Il faut être vieux à Venise pour la gloire. Sur vos 120 doges, plus de 50 sont devenus illustres à l'âge où les autres hommes perdent leur renommée. Dandolo aveugle avait 95 ans lorsqu'il conquit Constantinople. Zeno, 80 quand il délivra Chypre. Titien et Sansovino, presque centenaires, sont morts dans toute la force de leur talent. En m'accusant de jeunesse, vous faites la critique de mes ouvrages. On a apporté du café, j'en ai pris par contenance. Madame Benzoni m'a complimenté de mes mœurs à la Vénitienne et elle s'est remise en course pour me trouver des partners féminins. Pendant ce temps, je suis restée seule au milieu de ma malheureuse ottomane, fascinée et tremblant sous les regards d'une dame noire aux yeux de serpent à demi endormie. Elle semblait m'entraîner. Je crois qu'il y a des femmes aimantées qui vous attirent. Une blondine, dans son aprilé, se levait légère, en faisant le bruit d'une fleur. Elle avançait et penchait vers moi son visage d'une fraîcheur éblouissante. Elle était toute curiosité, tout mystère. on eût dit d'une rose inclinée sous le poids de ses parfums et de ses secrets. On vend à Venise des secrets de cette sorte pour se faire aimer. J'aurais bien voulu en acheter un, mais une histoire dont je gardais la mémoire m'effrayait. Un Napolitain s'était épris d'une Française, laquelle avait une chèvre. Ne pouvant toucher le cœur de sa dame, il eut recours à un philtre. Malheureusement, il se trompa dans le mélange des ingrédients et des paroles, et voici accourir la chèvre, cabriolante et bondissante, qui lui saute au cou et lui fait un million de caresses. Le charme était tombé sur la pauvre bique affolée. Madame Benzoni est revenue, elle s'était adressée aux diverses beautés du salon, elle les avait invitées à s'asseoir auprès de l'étranger. Toutes avaient répondu « Nous n'osons pas ». Si elles avaient su que j'étais plus effrayée qu'elles, elles auraient osé. « Vous vous défendrez inutilement, me dit ma gracieuse hôtesse, nous forcerons Eudore d'aimer une Vénitienne, nous voulons vaincre vos belles Romaines. C'est en effet chez vous, madame, ai-je répondu, que l'on devient amoureux. » Lord Byron y avait rencontré Madame Guiccioli. Quant à mes belles Romaines, comme il vous plaît de les appeler, je ne suis qu'un ambassadeur déchu. Il est très facile sans doute d'être séduit par vos charmantes compatriotes, mais j'ai passé l'âge des séductions. On ne doit faire de serments que quand on a le temps de les tenir. La dame noire prêtait l'oreille à notre conversation. La dame rose écoutait avec ses yeux. La comtesse Benzoni m'a parlé de Lord Byron d'une toute autre façon que Madame Albrizzi. Elle s'exprimait sur son compte avec rancune. Il se mettait dans un coin parce qu'il avait une jambe torse. Il avait un assez beau visage, mais le reste de sa personne n'y répondait guère. C'était un acteur, ne faisant rien comme les autres afin qu'on le regardât, ne se perdant jamais de vue, posant incessamment devant lui, toujours à l'effet, à l'extraordinaire, toujours en attitude, toujours en scène, même en mangeant zucca arrostita, du potiron rôti. Le côté moral de l'homme était encore plus maltraité. J'ai pris la défense de Childarold. Je vois, madame, qu'il est bon d'être votre ami. Vous êtes, ce me semble, un peu sévère dans vos jugements. L'affectation de bizarrerie, de singularité, d'originalité, tient au caractère anglais en général. Lord Byron peut avoir aussi expié son génie par quelques faiblesses. Mais l'avenir s'embarrassera peu de ses misères, ou plutôt les ignorera. Le poète cachera l'homme. Il interposera son talent entre lui et les races futures, et à travers ce voile divin, la postérité n'apercevra que le Dieu. Madame Benzoni s'est vantée d'avoir causé le matin avec un Français qui me connaissait beaucoup et qui lui a conté toute mon histoire. Elle ne me l'a pas voulu nommer. Vivant seule, ne confiant rien de mon existence à personne, je ne sais pas comment on me connaît beaucoup. Par les biographies, les unes obligeantes fourmis d'erreurs, les autres malveillantes sont remplies d'anecdotes absurdes. Il paraît du reste que le Français de Madame Benzoni n'est pas un ennemi. À minuit, je me suis retirée, malgré l'insistance de la maîtresse du lieu et l'air suppliant de la dame noire aux yeux de serpent. Ma gondole silencieuse et solitaire m'a reconduit, le long du grand canal, à l'hôtel de l'Europe. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres des palais dont Madame Benzoni avait clos les enchantements dans sa jeunesse. Les premières aventures de la Biondina furent les dernières de ces palais dépéris. Entre parenthèses, Mesdames Albrizzi et Benzoni ne sont plus. Ainsi j'ai vu mourir les deux dernières Vénitiennes. Qu'est devenu Lord Byron lui-même? On voyait l'endroit où il se baignait. On avait placé son nom au milieu du grand canal. Aujourd'hui, on ne sait pas même ce nom. Venise est muette. Les armes du noble lord ont disparu du lieu où on les avait exposées. L'Autriche a étendu son silence. Elle a battu l'eau et tout s'est tu. Note de Paris, 1841. Note de l'auteur.